Pamela Golbin, vous disiez hier qu'en 20 ans de carrière, l'exposition Madeleine Vionnier avait été l'une des plus difficiles à monter de sa carrière. J'abonderai aujourd'hui dans son sens. En 30 ans de pratique, les trois robes créées par Madeleine Vionnier, que j'ai restaurées, figurent dans mon palmarès des objets les plus difficiles, pas les plus compliqués, mais les plus difficiles à restaurer. En effet, comme Betty Kirk vous l'a montré hier, les créations de Madeleine Vionnier sont la plupart du temps coupées dans le biais et souvent drapées. Cette manière de prendre le sens du tissu, jointe à la finesse des matériaux, comme la mousseline, la gaze ou le tulle, dont Célia et Stéphanie vont parler, rendent l'œuvre de Madeleine Vionnier fragile, très fragile. Et comme le soulignait hier Maximilien Durand, Madeleine Vionnier ne s'est sans doute pas rendue compte de cette faiblesse lorsqu'elle affirmait qu'elle créait des choses qui durent. La difficulté réside essentiellement dans le fait que la mousseline, coupée dans le biais, se déforme, qu'il faut l'attendre au maximum pour la consolider, alors qu'elle est déjà abîmée, et que cette consolidation se doit d'être la moins contraignante et la plus transparente possible. La restauration des robes en mousseline coupées dans le biais constitue donc un challenge pour les restauratrices, car elles se trouvent la plupart du temps confrontées à un dilemme, restaurer pour sauver, tout en tentant d'être le moins interventionniste possible. Et c'était hier le propos d'Isabelle Rousseau, lorsqu'elle vous expliquait toutes les difficultés qu'elle avait rencontrées dans ses consolidations. Alors, je vais articuler mon propos autour de quelques lignes directrices. Donc, qu'est-ce que la mousseline ? Définir d'abord le matériau. Qu'est-ce que le biais ? Mais très rapidement, puisque Betty Kirk vous en a parlé longuement. Quelles dégradations sont induites ? Quels sont les choix de restauration qui se posent ? Et quelles solutions sont apportées ? Je vais balayer large dans mon propos, dans la mesure où, dans notre assistance, il y a des personnes qui ne sont pas spécialistes de la conservation-restauration. Donc, je vais aborder des notions qui sont des notions de base. Et je prie mes collègues ici présentes de m'en excuser, car elles vont avoir l'impression que j'enfonce des portes ouvertes. Alors, qu'est-ce que la mousseline ? Alors, je suis allée chercher tout d'abord dans le vocabulaire technique du CIETA. Et bien entendu, je ne l'ai pas trouvé, puisque la mousseline est un terme qui se réfère plutôt à une apparence, plutôt qu'à une armure donnée. C'est une armure toile, hein. Mais quand on parle de mousseline, c'est plus l'apparence qui compte et c'est plus une appellation, disons, commerciale. Donc, j'ai cherché dans différents ouvrages, notamment le catalogue Robe du Soir, dans lequel Sophie Desrosiers a fait le glossaire. Et j'ai trouvé comme définition tissu à armure taffetas, donc armure toile, léger et transparent, obtenu avec des fils tordus. Donc on avait déjà la notion de transparence, de légèreté et la torsion des fils. Mais ça ne me suffisait pas, donc j'ai continué. Et je suis allée voir le dictionnaire des textiles de Maggie Baume et Chantal Boyer-Lieu, dans lequel j'ai trouvé la définition suivante. Toile très fine en soie, j'avais regardé la mousseline de soie, bien entendu, puisqu'on a aussi la mousseline de coton. Légère et transparente, et là, elle donne un grammage, 24 grammes par mètre carré. Exécutée avec des fils fins, auxquels on a donné une torsion maximale, ce qui donne un tissu ajouré quand la chaîne et la trame sont identiques. Donc là, on a une notion, disons, de finesse et de légèreté du tissu par rapport au poids au mètre carré, mais on n'a pas grand-chose sur la torsion des fils, ni la nature des fils. Donc j'ai continué ma recherche. Je suis allée voir dans le dictionnaire des étoffes de M. Berthaud et de Mme Charvon et j'ai trouvé armure toile, chaîne et trame en fil de poil, donc on avait une information supplémentaire, c'est-à-dire de plusieurs brins de cocon réunis et fortement tordus. J'ai cherché encore à aller plus loin. Et je suis allée voir dans le manuel de tissage de Charles et Sylvain Labrif, qui date de 1950. Et là, ça a été le jeu des poupées russes. C'est-à-dire que j'ai trouvé comme définition mousseline de soie ou crêpe lisse comme synonyme. Tissu très léger, en chaîne et trame grège, fortement tordu. La trame, la chaîne grège, ce sont les filaments des cocons qu'on lie ensemble lors du dévidage. et qui sont fortement tenues par le grès qui sèche à la sortie du dévidage. Donc je suis allée voir crêpes et j'ai trouvé crêpes de Chine, tissu tissé avec une trame grège et une chaîne crêpe très tordue. Donc après, je suis allée voir ce qu'était le fil crêpe. Une ou plusieurs grèges tordues à plusieurs milliers de tours au mètre, faculté de rétrécissement et tendance à vriller. Donc là, on a la différence maintenant entre mousseline et crêpe, qui n'est pas toujours évidente à faire quand on a une mousseline qui est bien tordue et bien serrée. Comme j'ai abordé le terme de toile, de taffetas et de tissage, pour les personnes qui ne connaissent pas le tissage, je voudrais juste présenter ce qu'est le tissage avec la chaîne, la trame et l'entrecroisement des fils de chaîne et des fils de trame qui produisent un tissu. En l'occurrence ici, vous avez l'armure toile qui est la plus simple et qui est celle de la mousseline. Vous avez ici le schéma de l'armure toile que j'ai retiré du vocabulaire technique du Centre international d'études des textiles anciens de Lyon. Et à côté, vous avez enfin un petit morceau d'une robe, qui est la robe 52-18-62, avec un détail vu du revers de cette fameuse mousseline. Et voici un autre échantillon de la mousseline de la robe 52-18-71. Donc deux aspects très différents, toujours en fonction de la torsion des fils. Maintenant le biais. Comment obtient-on le biais ? On va de façon très simple plier la trame sur la chaîne du tissu. Les fils du biais doivent former un demi-angle droit avec les bords du tissu et les fils trame sont de la même longueur que les fils chaîne. C'est ce à quoi on voit qu'un biais est bien plein biais. Il faut bien que les fils soient de la même dimension. Après, libre cours, à vous de poser votre patron dans le biais et de fabriquer des vêtements ou tombants, souples, et à la forme qui s'adapte parfaitement au corps. Et ça, ce sont les caractéristiques de Madeleine Vionnet. Nous allons voir maintenant deux échantillons de ces coupes en biais. Donc, on voit très bien ici la fixation de plusieurs pièces de tissu qui constituent la robe, que nous allons voir par la suite, avec les biais fixés dans plusieurs sens différents. En restauration, ça nous pose des problèmes, bien entendu, puisque à chaque fois, on verra par la suite, on va consolider en coupant nos pièces de consolidation à chaque fois en suivant le sens du tissu. Et on aura à chaque fois des raccords de tissu entre les différentes pièces du vêtement. Donc encore un autre détail. Et là, c'est l'autre robe. J'ai fixé des épingles pour repérer le sens du tissu et on voit presque plus que c'est une mousseline puisqu'elle est entièrement couverte de broderies avec des strass et puis des petites perles. Donc les matériaux employés par Madeleine Vionnet sont très fragiles, vous l'avez vu déjà hier. On constate de nombreuses déchirures, usures, c'est ce que Emmanuel Garcin nous a montré dans son étude. Et par exemple, pour la seconde image, je pense que, comme Agnès Mathieu-Daudet le disait, il doit s'agir d'un talon qui s'est pris dans le bord de la robe. Là, par contre, il me semble que c'est plus une réparation d'usage, même si le vêtement n'a pas été porté par quelqu'un dans la vie courante. Et donc, au niveau des choix de restauration, bien entendu, c'est le genre de choses qu'on choisira en accord avec la personne responsable de cet objet de conserver. Ces objets ont donc été réparés. On a, pour la robe UF 52-18-71, de nombreuses coutures qui ont lâché et des réparations malhabiles, mais qui ont permis quand même de juguler les dégâts et d'empêcher la robe de s'abîmer davantage. Et vous avez ici le détail d'une de ces réparations vue sur l'envers. Donc c'est ce genre de choses que par la suite, on va devoir démonter. Ces robes ont donc été déjà plus ou moins remaniées, enfin pas remaniées, mais réparées, restaurées à différentes époques, en fonction des moments d'exposition. Vous avez ici les deux robes que j'ai eues entre les mains, et elles sont superbes. Ça, il est vrai que lorsque nous travaillons sur des objets de ce genre, nous avons de la chance. Comme disait Monsieur Chenoun, il nous parlait du mystère de la fabrication du vêtement qui constituait notre apanage. Et c'est aussi ce que soulignait Emmanuel Garcin en disant qu'elle avait eu la chance de voir toute la collection et de pouvoir la toucher et d'être proche de cette collection. De façon tout à fait prosaïque, il faut dire que dans certains cas, la difficulté transcende ce plaisir. Et vous allez voir. Donc voici la robe bleu-vert que j'ai eue entre les mains et qui, comme vous le voyez, une fois mise à plat, manque beaucoup d'allure quand même par rapport au mannequinage. Et voici l'autre. Alors je l'ai mise exprès sur un cintre pour montrer combien le poids des matériaux de la broderie tire sur le tissu et le déforme. Donc c'est une robe qu'on peut tenir dans le creux de la main, vous voyez, mais qui, une fois sur le corps, l'habille vraiment complètement. Robe avec col bénitier comme la précédente. Nous avons eu également le problème de savoir où étaient le devant et le dos, comme le soulignait quelqu'un hier, je crois que c'est Pamela, et donc nous nous sommes concertés, regardez les photos, enfin c'était pas évident comme ça. Et juste un petit détail pour vous montrer le travail de broderie, face et revers. Donc de nombreuses interventions avaient eu lieu sur la robe 52-18-62. On avait des consolidations avec de la crépeline qui avait été faite au niveau des épaules. La crépeline, c'est un voile de soie transparent qu'on utilise beaucoup en conservation, restauration de textiles, et c'est un voile de soie. Et donc, à l'époque, je ne sais pas quand cette restauration a été faite, il avait été choisi de consolider surtout les épaules qui étaient déchirées parce que c'était là où se mettaient les tensions. Mais par la suite, le tissu a craqué en dessous de la consolidation. Donc, cette consolidation ne jouait plus son rôle. C'est toujours un peu un éternel recommencement, c'est-à-dire que lorsqu'on restaure quelque chose, on se pose et on se place toujours dans la situation où, un jour, on devrait retirer ce qu'on a fait, d'où la réversibilité nécessaire de ces interventions. Il y avait également eu des restaurations ou des consolidations faites avec des pièces de tulle de soie qui avaient été collées. S'est posé alors le choix de restauration. Quel choix de restauration ? Les robes avaient été nettoyées au solvant par la maison Pouyanne, donc le problème de la salissure était pas forcément résolu, mais au moins on en avait fini avec celui-là. Donc se posait le problème de la dérestauration, du choix consolidation ponctuelle ou consolidation totale, du choix du matériau de consolidation. Le matériau idéal étant un tissu transparent, léger, élastique, solide, qui ne se voit pas, donc évidemment un peu difficile à trouver. Et enfin, faire des essais pour orienter le choix. Les matériaux de restauration que nous utilisons sont divers et variés. En l'occurrence, nous cherchions un matériau en soie, et avec une texture qui se rapprochait de l'objet lui-même. Donc je me suis d'abord orientée vers de la mousseline de soie que j'ai commencé à teindre. Et comme l'exposait hier Isabelle Rousseau, il y a un problème d'opacité avec la mousseline de soie. Et lorsque je cousais la crépeline de soie à l'arrière du vêtement, il y avait un problème d'opacité et l'objet n'avait plus sa couleur d'origine. Donc j'ai essayé de prendre de l'organza, qui était un peu plus léger, mais plus solide que la crépeline, Et là, comme il est plus solide que la crépeline et moins élastique que la mousseline de soie, il y avait un problème de maintien de l'objet qui était beaucoup trop contraignant. Donc j'ai fini par opter, comme la plupart d'entre nous, pour de la crépeline, donc finalement une solution classique. Ensuite venait le problème de la couleur. Donc, je passe rapidement, mais il faut vous dire que nous teignons nous-mêmes nos matériaux et que nous faisons des recherches de couleurs. Donc, vous avez ici une fiche de teinture qui montre l'échantillonnage qui a été fait. Dans la partie supérieure, vous avez la crépeline qui a été lavée mais qui n'est pas teinte. En bas, vous avez la crépeline qui a été choisie pour cette robe. Et vous avez ici tous les essais qui ont été réalisés pour essayer de trouver une teinte approchante. C'était une robe qui était bleue, verte, donc j'ai tablé dans les bleus et dans les verts pour finalement trouver une couleur qui soit médiane, j'allais dire comme d'habitude. Ensuite, venait le problème de fil. Donc j'éteins comme mes collègues de l'organza de soie que vous avez dans la partie supérieure en flotte, c'est-à-dire en écheveau. Ensuite, en dessous, la tresse blanche, c'est la tresse qui n'est pas teinte. À côté, vous avez les tresses qui ont été détressées et qui vont être retressées pour être propres et nettes. Et à droite, vous avez l'échantillonnage de fil fait pour cette robe. Donc est intervenue la phase de dérestauration. Le choix qui a été fait était de retirer les anciennes restaurations et de faire quelque chose finalement de costaud dans la mesure où les robes allaient être mannequinées. Et lorsque nous intervenons sur un objet de ce genre, souvent nous intervenons à plat. Or la robe va être portée par un mannequin, donc il faut absolument envisager la restauration sous l'angle du mannequinage. Et Joséphine connaît bien le problème. Donc la partie gauche montre l'enlèvement des pièces de crépeline. À droite, sur l'envers, vous avez une réparation de couture, comme les coutures que vous aviez vues tout à l'heure, qui est très moche, qui a été retirée et qui après va devoir être consolidée. Donc ça, c'est sur l'autre robe. Puis intervient l'étape de préparation des pièces de tissu de consolidation. Donc nous avions opté pour une consolidation totale de la partie supérieure de la robe, de manière à pouvoir répartir les tensions sur la totalité du tissu. Et comme je vous l'expliquais tout à l'heure, il a fallu élargir au maximum avec une forme à l'intérieur la mousseline, tout en faisant attention puisqu'elle était très dégradée dans les parties correspondant aux épaules et sous les aisselles et le long de toutes les coutures, donc des parties qui avaient été fortement sollicitées par la suite. La technique est une technique classique que nous appelons, nous, du moulage dans notre vocabulaire, qui est nous prenons la forme de la pièce de crépeline pour pouvoir après tendre cette crépeline sur cette forme au mouillé. Ensuite, nous découpons les ourlets pour qu'ils soient nets. Et bien entendu, notre crépeline va suivre le sens du tissu qui va être consolidé. Vous avez ici la robe qui est tendue. Et ici, un patron un peu de l'emplacement où les points ont été effectués. Donc tout ce qui est rouge, ce sont des points de restauration. Les grandes lignes, ce sont des points de fixation, toujours au fil d'organzin dédoublés avec des points droits. Et les lignes courbes sont les lignes que j'ai faites le long des perles, des lignes de perles, pour fixer régulièrement la crépeline pour éviter qu'elle poche. Le point que nous utilisons est ce qu'on appelle le point de restauration, qui est en fait un point de boulogne et qui permet de répartir les tensions dues au point de couture. Et donc quelques exemples. Donc exemple du point de restauration, la déchirure avant, la déchirure après, avec toujours le problème de l'insatisfaction que nous éprouvons lorsque nous restaurons de la mousseline, parce que les points se voient. Alors évidemment, il faut avoir le nez dessus. Là, vous voyez, ça fait 4 cm. Parce que le droit fil est difficile à obtenir. C'est difficile de remettre tous les fils dans le bon sens. Donc, parfois, au terme d'une restauration longue, on se retrouve avec un sentiment d'insatisfaction parce qu'on aurait aimé faire mieux. Et je crois que l'intervention d'Isabelle hier était le témoin parfait parce qu'elle voulait faire au maximum, mais avec un objet dégradé d'une extrême fragilité, on ne peut pas faire des miracles, même si souvent on nous compare à des fées. Vous avez à gauche une aisselle de la robe avant consolidation, vue sur l'envers, et après, à droite, la même aisselle vue sur l'endroit avec la pièce de crépeline qui a été posée. Et ici, juste deux exemples d'épaules qui ont été consolidées avec la crépeline. J'ai mal placé mes lettres, je les ai mises justement à l'endroit où il y a des points de restauration sur l'épaule de droite. Alors voici le résultat qui est évidemment peu visible sur la photo, c'est-à-dire que toute la partie supérieure a été consolidée sur de la crépeline et permet donc de manipuler l'objet. Le problème de ce type de restauration, c'est que d'une certaine manière, on contraint l'objet, c'est-à-dire qu'il n'a plus la souplesse qu'il avait auparavant. Il pouvait se rétracter facilement de lui-même. Là, maintenant, la crépeline maintient le tissu et il n'est plus aussi élastique qu'auparavant. Donc là, encore une fois, c'est une des limites de nos interventions. C'est-à-dire que trouver le matériau qui soit autant élastique que la mousseline, pour l'instant, je n'ai pas encore trouvé. Alors voici un exemple de consolidation ponctuelle sur l'autre robe. C'est vu sur l'envers. J'ai mis un petit carton parce qu'on ne voyait rien. Donc souvent, c'est le cas avec des objets qui sont blancs sur blanc. Et vous voyez tout de suite qu'il est difficile de faire coïncider le tissu, la mousseline, avec la crépeline. Donc c'est en cousant qu'on retend la mousseline pour la remettre dans le droit fil et faire une restauration qui soit la plus esthétique possible. Alors voilà une partie de la robe consolidée, donc vue de face et vue à l'intérieur, donc sur le revers, toute la partie correspondant aux hanches, là où se trouvait le plus de perles et de strass, a été consolidée et maintenue de manière à pouvoir être mannequinée en toute sécurité. Et vous avez ici la robe, une des robes dans la vitrine, qui montre que lorsque nous restaurons à plat, il faut toujours envisager la présentation en volume. Et c'est un peu ce que disait Emmanuel dans son étude. Si on ne connaît pas les tenants et les aboutissants de la restauration qu'on nous demande, il est difficile de faire la restauration qui est adaptée à l'objet. Donc en conclusion, le travail que je vous présente aujourd'hui est en fait le reflet des problèmes qui se sont posés lors de la restauration de toute la collection. Célia et Stéphanie vont vous présenter la restauration des tulles qui aussi pose beaucoup de problèmes. Et les artistes rêvent, les couturiers habillent les femmes, mais il faut un corps pour faire la robe. Et c'est tout le délicat travail du mannequinage que Joséphine Pellas va nous montrer. Et donc la restauration, c'est un travail d'équipe. On ne peut pas travailler chacune de notre côté en sections séparées. Voilà. Je vous remercie de votre attention.